Ici Lionel Gendron, correspondant à RTL. Une partie des États-Unis est sous le choc, une autre pleine d'espoir via un scoop retentissant. On a appris la semaine dernière que les Américaines risquaient de perdre leur droit constitutionnel à avorter. Chaque État pourrait édicter sa propre règle, maintien du droit à avorter, ou alors jusqu'à 6 semaines, ou bien une interdiction totale. Le pays risque de se diviser encore un peu plus. Hello everyone. Je crois que je vais arrêter de vous annoncer le programme pour la semaine suivante désormais, car à chaque fois que je l'ai fait, je ne l'ai pas respecté. Je vous avais dit la semaine dernière que nous parlerions des ascenseurs et de leur place dans l'histoire américaine. Eh bien, je vais garder mes ascenseurs bien au chaud, car entre-temps, il y a eu cette fuite capitale en provenance de la Cour suprême, un coup de tonnerre, et il me paraissait difficile de ne pas en parler cette semaine, car il y a beaucoup de choses en jeu. L'avortement, c'est la mère des batailles pour la droite chrétienne et l'Amérique conservatrice qui souhaite revenir sur ce droit et qui a déjà commencé d'ailleurs. Il y a des questions aussi sur le rôle et le fonctionnement de la Cour suprême, sur sa neutralité. Ce qui est en train de se passer, c'est le résultat d'un long travail des républicains, un travail politique et notamment un travail du chef des sénateurs républicains Mitch McConnell, une stratégie qui s'est poursuivie et accomplie sous le mandat de Donald Trump. Alors, pour rappel, le site Politico a eu ce scoop la semaine dernière en publiant un projet d'arrêt écrit de la main d'un des 9 juges, Samuel Alito, un projet qui, s'il devait être adopté tel quel, renverrait les États-Unis 50 ans en arrière. Chaque État serait libre d'autoriser ou non les avortements. Alors, ce document a été écrit au mois de février. Rien n'assure, ne certifie que ce sera le document final, puisque les travaux et les débats vont se poursuivre jusqu'au 30 juin. Mais il donne une forte tendance, et en fait, ce n'est pas une grosse surprise au vu de la composition de la Cour suprême. On y reviendra. Ce document, donc, estime que la décision historique appelée Roe versus Wade, et qui date de 1973 et qui encadre le droit à l'avortement, eh bien, que cette décision est caduque. Une courte parenthèse, hein, puisque on entend souvent parler de Roe versus Wade. Jane Roe était le pseudonyme d'une femme qui souhaitait rester anonyme, Norma McCorvey. Pour les personnes non identifiées, vous savez, on utilise John Doe ou Jane Doe, et là, ils ont choisi Jane Roe. Au début des années 70, donc, elle a contesté la loi du Texas qui interdisait l'avortement. Le procureur de Dallas s'appelait Henry Wade, d'où l'arrêt Roe versus Wade. Dans son texte, Samuel Alito, l'un des 6 juges conservateurs actuellement, accuse la Cour suprême de 1973 d'avoir empêché un grand nombre d'Américains de se prononcer sur cette question. Immédiatement, il y a eu plusieurs manifestations dans tout le pays la semaine dernière, dans les grandes villes américaines, et il y en aura d'autres le week-end prochain. Le slogan le plus répété des femmes peut se résumer ainsi: aucun homme, aucune femme ne peut décider pour moi, il s'agit de mon corps. Mais il y a aussi une partie de l'Amérique qui se réjouit de ce possible retour en arrière, notamment les catholiques et protestants évangéliques, ceux que l'on appelle les pro-life. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'avortement est la mère des batailles. La victoire de Donald Trump était une étape. Il avait promis, s'il était élu, de nommer des juges enclins à revenir sur l'arrêt de 1973. Donald Trump n'a jamais été particulièrement opposé à l'avortement. Sur beaucoup de questions sociétales, d'ailleurs, il est plutôt libéral. Mais il avait besoin des évangéliques pour gagner la primaire républicaine et ensuite l'élection présidentielle. Les chrétiens évangéliques le lui ont bien rendu puisqu'ils ont voté pour lui à plus de 80%, malgré quelques scandales et des propos parfois pas très chastes concernant les femmes. Il faut bien comprendre que ce qui s'est passé la semaine dernière, ça a été un choc aux États-Unis. On savait que le droit à l'avortement pouvait être remis en question. Des États ont déjà pris des mesures très restrictives, comme au Texas, où les femmes ne peuvent plus avorter après 6 semaines, c'est-à-dire dès que l'on entend le battement de cœur du fœtus lors d'une échographie. et les personnes qui aideraient, hein, que ce soit du personnel médical ou même un ami qui conduit une femme à la clinique, eh bien ces personnes peuvent être poursuivies. La délation est même encouragée, jusqu'à 10 000 dollars de récompense. Je vous en avais parlé, j'avais interviewé l'un de ces chasseurs de primes d'un genre particulier. La remise en cause de l'avortement par la Cour suprême était régulièrement évoquée dans les médias, dans les conversations, mais de façon un peu diffuse en fait. Et j'ai maintenant l'impression que les gens refusaient d'y croire. Ce qui a surpris aussi, c'est qu'il y ait une fuite. Le site Politico a réalisé un scoop hein, qui restera dans l'histoire américaine. Des fuites, il y en a régulièrement à la Maison Blanche, au Congrès, au Pentagone, etc. Mais à la Cour suprême, ça n'arrive jamais. Une enquête est d'ailleurs lancée pour savoir d'où vient cette fuite, en comptant les juges eux-mêmes et leurs assistants, le personnel administratif. On estime qu'il y a environ 70 personnes, 70, 80, qui ont pu avoir accès aux documents. D'ailleurs, lors des réactions, les républicains ont tout de suite focalisé leur réaction sur cette fuite, estimant que c'était le sujet principal. Alors, évidemment, c'est un sujet. C'est vrai que si les travaux de la Cour suprême sont rendus publics avant la fin des débats, cela risque de compliquer, voire de paralyser le travail judiciaire. Mais bien évidemment, le sujet principal, ce n'est pas la fuite, c'est le droit d'avorter pour les femmes. Si les républicains changent de sujet, changent la narration, comme on dit, c'est qu'ils ne sont pas forcément à l'aise avec cette histoire. Parce que des républicains, déjà à titre privé, sont contre l'avortement, d'autres non. Mais le problème n'est pas là, le problème est politique. Globalement, l'opinion américaine est plutôt pour le maintien de Roe versus Wade. Ça dépend des sondages, mais entre 58 et 65%, un plus récent sondage indiquait que 54% des Américains étaient pour que la loi reste comme elle est, contre 28%, les autres étant sans opinion. On a donc un rapport de 1 à 2. Les républicains, en fait, n'ont pas du tout envie d'en faire un combat, un étendard à l'approche des élections de mi-mandat. Pour eux, je parle toujours là en termes de stratégie politique. Que la Cour suprême revienne sur le droit d'avorter, ça peut les arranger car ça satisfait la base conservatrice. Mais ils ne veulent pas trop être impliqués politiquement car ça pourrait leur faire perdre des voix des républicains modérés, des électeurs indépendants. En plus, les démocrates voient bien sûr dans le soutien au droit à l'avortement un thème central sur lequel ils peuvent challenger, voire gagner des voix par rapport aux républicains à l'approche des élections de mi-mandat. En tout cas, ce sera à coup sûr un thème majeur de ces élections. Les républicains sont sur un terrain politique compliqué, donc même si ça fait des années qu'ils préparent cette échéance, et pour le comprendre, il faut remonter à 2016, avant l'élection de Donald Trump. Il n'est alors qu'un des candidats à la primaire républicaine. Pratiquement personne n'imagine alors son parcours à venir. Et au mois de février 2016, le juge de la Cour suprême, Antonin Scalia, meurt. C'est un juge conservateur. Rapidement, Barack Obama propose un nom, Merrick Garland, pour le remplacer. Merrick Garland, c'est l'actuel ministre de la Justice. Il est considéré à l'époque, d'ailleurs toujours aujourd'hui, comme un modéré. Il fait plutôt l'unanimité, mais intervient alors un personnage politique dont on a déjà parlé dans une lettre d'Amérique sur le Kentucky, le chef des sénateurs républicains, Mitch McConnell. Son nom revient souvent car c'est assurément l'un des hommes politiques américains les plus importants de ces dernières décennies, même s'il est peu connu en dehors des États-Unis. Alors, que fait Mitch McConnell? Eh bien, tout simplement, il dit que le Sénat n'organisera pas la procédure de confirmation de Merrick Garland. Il estime que le prochain juge de la Cour suprême doit être choisi par le prochain président qui sera élu dans quelques mois. Son pari, bien sûr, c'est que le prochain président ne soit pas démocrate et qu'il puisse donc choisir un juge conservateur. Mitch McConnell dira ensuite dans un discours, l'un des moments de ma carrière dont je suis le plus fier, c'est lorsque j'ai regardé Barack Obama dans les yeux et que je lui ai dit, Monsieur le Président, vous n'allez pas nommer de juge à la Cour suprême. Et donc, jusqu'à l'élection présidentielle, le siège d'Antonin Scalia est resté vacant. Il n'y a eu que 8 juges, 4 libéraux et 4 conservateurs. Une parenthèse, hein, quand Ruth Bader Ginsburg, juge libérale, est morte un mois et demi avant la dernière élection présidentielle en 2020, là, Mitch McConnell a trouvé logique de réunir la commission judiciaire du Sénat pour nommer en catastrophe une nouvelle juge, en l'occurrence Amy Coney Barrett. C'est un calcul politiciens. Je ne porte pas de jugement. Peut-être que les démocrates auraient fait la même chose, j'en sais rien. En tout cas, ça manque de sincérité, puisqu'en 2016, il estime que c'est au futur président de choisir un nouveau juge. 4 ans plus tard, il fait complètement l'inverse. Pour revenir et pour terminer sur le blocage du Sénat afin que Barack Obama ne puisse pas nommer de juge, ça a sans doute eu un effet sur le duel entre Hillary Clinton et Donald Trump, car la nomination du 9e juge a été un thème important de la campagne électorale et a fortement mobilisé l'électorat conservateur qui s'est donc déplacé en masse. Une fois élu, Donald Trump nommera donc Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh, puis Amy Coney Barrett. On est à 6 juges conservateurs et 3 libéraux. Pour protéger le droit à l'avortement, les démocrates auraient bien une solution, hein, c'est-à-dire faire passer une loi au Congrès, mais pour ça, il faudrait qu'ils cassent une règle du Sénat, la règle du filibuster. Je ne reviens pas sur son historique, on en a déjà parlé, mais rapidement, c'est une règle qui oblige à avoir 60 sénateurs sur 100 pour faire passer les principales lois, hors loi budgétaire. Il pourrait donc casser cette règle par un vote à la majorité simple, mais 2 sénateurs démocrates s'y opposent, Joe Manchin et Kirsten Sinema. Il peut aussi y avoir un retour de bâton sur ces manœuvres. Si le filibuster est supprimé et que les républicains prennent le contrôle du Sénat au mois de novembre, même s'ils sont moins de 60, eh bien, ils pourraient très bien faire passer une loi contre l'avortement cette fois. L'histoire montre d'ailleurs la difficulté hein, de s'aventurer sur ce terrain des changements de règles. En 2013, les démocrates du Sénat, alors majoritaires, en ont marre de l'obstruction aux nominations de Barack Obama et ils modifient les règles afin que les nominations des membres du cabinet, du gouvernement et ainsi que les nominations des juges fédéraux puissent être confirmées à la majorité simple au lieu du seuil habituel de 60 voix. Mais en 2017, quand il a fallu confirmer Neil Gorsuch à la Cour suprême, les démocrates, cette fois-ci, sont opposés. Mais les républicains, qui étaient désormais majoritaires au Sénat, eh bien, ils ont changé la règle à leur tour. Ils ont dit, bah, puisque c'est comme ça, nous aussi, on va changer la règle. Les juges à la Cour suprême, désormais, sont validés à la majorité simple. Vous voyez que changer des règles peut donner des avantages à un moment donné, mais il y a un possible retour de bâton. En l'occurrence, ça s'est retourné contre les démocrates ou les libéraux qui sont en infériorité à la Cour suprême, je vous le disais tout à l'heure, 3 contre 6. D'après les informations de Politico, on se dirigerait vers un vote final à 5 contre 4. Le responsable de la Cour suprême, le Chief Justice, John Roberts, serait plutôt enclin à voter pour le maintien du droit à l'avortement, au nom notamment de la règle du précédent, c'est-à-dire qu'on ne revient pas sur une décision de la Cour suprême, surtout sur des sujets aussi importants. Pour certains, cette affaire remet aussi en cause le processus même de nomination, de confirmation devant les sénateurs, puisque certains juges ont été volontairement flous, confus quand on leur a demandé leurs intentions, à part Amy Coney Barrett, connue pour ses positions anti-avortement. Elle a eu le mérite de ne pas trop esquiver, mais Brett Kavanaugh, par exemple, a dit « Oui, il s'agit d'un précédent important de la Cour suprême qui a été réaffirmé à de nombreuses reprises. » Il laisse entendre qu'il ne s'y attaquera pas forcément, mais en même temps, ses propos sont suffisamment larges pour signifier tout ou rien. C'est aussi la faute des politiques hein, qui, ces dernières années, utilisent ces confirmations au Sénat pour faire passer des messages au lieu de se concentrer sur le fond des dossiers. Alors, quelle sera la suite? La décision finale devrait intervenir à la fin du mois de juin. Déjà, des États se préparent soit à restreindre, soit à interdire l'avortement, ou alors des États, eux, se préparent à devenir beaucoup plus accueillant pour les femmes. Le New York Times a fait une carte qui montre à quoi devrait ressembler le pays en matière de droit à l'avortement si les juges reviennent sur l'arrêt de la Cour suprême. Je vais vous la mettre sur mon compte Twitter, @LionelGendron, tout attaché, Gendron avec un G. L'un des problèmes, c'est que parmi les femmes qui veulent se faire avorter, eh bien, il y a beaucoup de femmes pauvres et le gouvernement fédéral pourrait débloquer des fonds pour financer leur transport, car c'est un coût si elles doivent changer d'état pour se faire avorter. Des entreprises privées promettent également d'aider leurs employés si elles en ont besoin. C'est le cas notamment des vêtements Levi's. Alors on ne sait pas, il y aura peut-être aussi une décision intermédiaire hein, en réduisant le délai légal. Aux États-Unis, les femmes peuvent avorter jusqu'à 23 semaines de grossesse. En France, par exemple, c'est 14 semaines. Enfin, à court terme, il devrait y avoir plusieurs manifestations samedi prochain. Je vous tiendrai bien évidemment au courant. comme chaque semaine, une info concernant les midterms pour terminer. On va dans l'Ohio pour parler de J.D. Vance qui a gagné la primaire républicaine. J.D. Vance est l'auteur d'un livre important aux États-Unis qui s'appelle Hillbilly Elegy. C'est un livre qui raconte son enfance et qui montrait l'Amérique de Trump, les problèmes de la classe ouvrière blanche que les démocrates et Hillary Clinton n'ont pas su voir à temps. J.D. Vance avait pas mal critiqué Donald Trump avant de se rallier à sa bannière, une tactique qui s'est donc révélée payante. Puisqu'on a beaucoup parlé des femmes aujourd'hui, bien évidemment, eh bien on va se quitter avec un morceau qui leur est consacré. Il date de 1964. Vous le connaissez peut-être à travers son film éponyme. Il s'agit de Pretty Woman de Roy Orbison. N'hésitez pas à faire des commentaires sur les plateformes et à mettre des étoiles. À la semaine prochaine. Thank you and goodbye.
Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman, I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy.
Vous venez d'écouter Une lettre d'Amérique. Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur l'application RTL, sur rtl.fr ainsi que sur vos plateformes habituelles.